Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans l'épopée sonore, nous accueillons Juan Camilo Araos Casas, doctorant en ethnomusicologie à l'Université de Saint-Étienne et également diplômé du CNSMD de Lyon. Il vient nous raconter son parcours et présenter son sujet d'étude, la pratique du rasgueado dans le Codice Saldivar numéro 4 et Cifras Selectas des Guitarras de Santiago de Murcia. Une approche de la tradition orale appliquée à l'interprétation historique. Premièrement, je vais vous poser une question assez générale. Votre début dans la musique se fait, j'imagine, en Colombie. Votre première approche par rapport à l'instrument même de la guitare, comment est-ce que tout ça s'est passé? Je vous laisse nous raconter un peu.
Bon, bonjour, merci pour l'invitation. Et, en fait, ça s'est arrivé d'une façon très naturelle. Et dans ma famille, il y avait toujours de la musique. Mes parents jouaient de la guitare. Et on faisait la musique avec des amis, dans les fêtes, etc. On joue beaucoup pour les fêtes, oui, pour Noël, pour plein de choses. En Colombie, on fait la musique dans beaucoup de moments sociaux. Et je voyais ça, j'ai chanté, et ma maman a voulu qu'on apprenne des instruments. Donc, j'ai commencé avec un instrument traditionnel de la Colombie qui s'appelle le tiple, qui est un instrument de la famille des guitares, mais c'est un instrument à quatre cœurs, c'est-à-dire qu'il a quatre groupes de trois cordes, en total 12 cordes. Et c'est un instrument en cordon de métal qu'on utilise pour accompagner la musique traditionnelle du centre de la Colombie. Et c'est ça c'est le premier instrument que j'ai joué quand j'avais 8 ans. Et en chantant et des chansons, en s'accompagnant avec cet instrument. Donc ça c'est les premiers contacts avec la musique. Après j'ai voulu faire de la guitare, voilà, populaire, et même des musiques actuelles, etc. Et des musiques aussi traditionnelles. Et j'ai passé vers la guitare classique et quand j'étais adolescent, vers la guitare jazz aussi. Et après, quand j'ai dû passer j'ai fini mon bac, j'ai décidé de faire la carrière ou le diplôme de guitariste classique. Donc c'est ça que j'ai fait à l'université en Colombie. Et dans ces moments-là, au milieu de mes études à l'université, il y a eu un projet énorme de la Banque de la République de la Colombie qui a voulu amener des professeurs de la Escola Cantorum de Bâle, et qui est l'école de musique ancienne la plus connue du monde. Et ils sont venus pour faire des ateliers avec des jeunes musiciens de la Colombie. Et on ne savait pas qu'est-ce que c'était la musique ancienne vraiment. On a fait de la musique baroque en guitare, etc. Mais cette façon de s'approcher à la musique ancienne, on ne la connaissait pas. Et on a été bouleversés pour cette façon d'interpréter la musique et d'accéder aux sources, de trouver des interprétations plus riches de cette musique, plus vivante. Des fois, on a l'image que la musique baroque, la musique ancienne, c'est une musique pour une pièce dans un musée un peu vieille. Et moi, grâce à ces ateliers-là, on a vu que c'était une chose vivante. On était merveillés par ça. Donc il y a eu beaucoup de musiciens qui sont partis vers l'Europe ou vers les États-Unis pour nous former en musique ancienne.
Juan, j'aimerais aussi que vous nous parliez de cet instrument, la guitare baroque, avec une esthétique assez particulière qu'on retrouve sur très peu de guitares. Notamment, je vois une rosace qui est très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Et oui, tout à fait. Bah, là, bon, en parlant en général de l'instrument, c'est un instrument à 5 cœurs, donc il a 5 groupes de cordes. La première est toute simple, et après il y a des couples. Donc on pourrait dire que c'est comme la guitare actuelle, mais les 5 premières cordes, et c'est Mi, Si, Sol, Ré, La. Et c'était l'instrument qui s'est joué au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, il n'avait que 4 cœurs. Donc c'est l'instrument qui est arrivé en Amérique et qui est devenu beaucoup d'instruments à 4 cœurs. Voilà. Mais celui-là, bah, c'était, comme je vous racontais, c'était déjà l'instrument qui était mieux connu, mieux reconnu, oui, comme un instrument noble. Donc on a voulu faire des instruments très ornés, et avec des incrustations de nacre, on dit, oui, d'ivoire, des choses comme ça, oui. On travaillait beaucoup sur les rosaces. Donc les rosaces étaient soit taillées sur la table, ou soit comme celle-ci qui est construite en 3 dimensions, en papier, vers l'intérieur de l'instrument. Donc on voulait faire ça, et ça... On me demande toujours si ça fait quelque chose sur les sons. Ça les bloque un petit peu, mais c'est surtout esthétique. On voulait faire plein de choses belles sur les instruments. Et la même chose pour l'autre partie de la boîte, disons, que vous voyez qu'il y a deux types de bois qui s'alternent entre... Ça, c'est... Bah, j'ai oublié les noms des bois. C'est noir et jaune.
Et au-delà donc, de l'esthétique très particulière, sur les frettes, je vois aussi que les plus aiguës, en tout cas les plus basses, n'ont pas la même couleur et ni la même longueur. Est-ce que ça change quelque chose sur la nature même du jeu ?
Oui, en fait, tous ces instruments des accords pincés de cette époque-là avaient des frettes qui étaient mobiles. Et par rapport au tempérament dans lequel on accordait. Donc, on les fait avec du boyau. Et on les. Voilà. Et ça, après quelques temps, ça commence à s'abîmer. Donc, on les change. Voilà, c'est ça. On a des frettes mobiles tout le temps. Mais c'est aussi un. Bon, ce sont des choses qu'on commence à découvrir quand on joue ces instruments, qu'il faut faire des choses additionnelles. L'instrument n'est pas tout prêt quand on veut le jouer. La pièce que vous allez écouter maintenant, c'est une pièce qui fait partie du livre de Santiago de Murcia qui s'appelle « Los Imposibles ». Est un musicien sur lequel on n'a pas trop d'informations sur sa vie, disons. On sait qu'il a été à la cour de Madrid au début du XVIIe siècle. Il a publié une méthode qui s'appelle « Resumen de accompagner la parte con la guitarra », que ça veut dire pour accompagner et pour faire la basse continue, disons, sur la guitare. Et après, on ne retrouve pas sa trace de où est-ce qu'il a bougé, disons. Mais on a retrouvé 2 manuscrits, un au Mexique et un autre au Chili. Ce qui veut dire que la musique de Santiago de Murcia a voyagé vers l'Amérique. C'est pas sûr qu'il est parti vers les nouveaux mondes, mais la musique, oui. Donc, et ça montre qu'il y avait une pratique de guitare baroque dans ces deux endroits au moins, Mexique et Chili. Et c'est les compositeurs duquel on a plus de danses espagnoles de l'époque et des danses même qui ont des mélanges avec des éléments africains et comme cumbes ou voilà. Et Fandango, et qui sont des danses qui montrent un peu les portraits de la musique espagnole populaire, même si c'est un musicien de cours stylisé, disons, dans ces formats, mais il montre quelques éléments de musique populaire, et ça m'intéressait beaucoup pour ce que je cherchais. Donc, cette musique est très riche en éléments populaires que j'aime bien développer là-dedans.
D'accord. Et donc là, vous parliez de manuscrits qui avaient été retrouvés sur le continent américain. C'était donc une musique qui était écrite. Est-ce qu'il y a aussi, puisque dans votre doctorat, vous parlez également de la transmission orale de la musique, est-ce que c'était un compositeur qui avait aussi des transmissions orales et que vous avez pu retracer, retrouver peut-être?
C'est très difficile à savoir ça, surtout pour la musique populaire, parce que ça ne s'écrivait pas. Il y avait, disons, la plupart de la musique écrite qu'on trouve, c'était musique sacrée, et en Amérique, disons. Après, il y a quelque chose de plus petit, de musique instrumentale, qui s'est jouée dans les maisons des gens les plus riches, disons. Et donc, ça, c'est un témoignage, ce manuscrit, de quelque chose qui appelle à la musique populaire, à la musique de tradition orale, mais pas plus. Il faut avoir toujours en compte que Santiago Murcia est un musicien des cours formé dans la musique savante, disons, de l'époque. Donc, et il a les éléments, mais on ne peut pas dire comment jouer dans la rue de Madrid. Au XVIIe siècle, que ça serait idéal d'avoir un enregistrement de ça. Ça, c'est génial. Mais voilà, c'est comme ça qu'on essaye de proposer des hypothèses sur ça.
En 2009, à la création de votre groupe, vous avez déjà avancé une carrière de musicien soliste, il me semble. Et donc, à ce moment-là, vous fondez avec Ana Maria Fonseca un groupe qui se nomme Como Era En un principio, en traduction française, comme c'était à l'origine. Ce groupe, que ce soit les membres avec qui vous l'avez composé, ou le nom, ou même les thèmes, enfin, les inspirations en tout cas de ce groupe, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que ça s'est fait?
Oui, bien sûr. Donc, en 2007, c'est où je commence à avoir contact avec la musique ancienne grâce à ces ateliers que je vous raconte. Et Ana Maria, elle était là aussi, elle était une des élèves de ces... Donc on a commencé à essayer de faire de la musique ancienne. Et il y a eu un luthiste qui m'a encouragé à acheter un instrument, à commencer à apprendre tout seul comment ça s'est joué, un luth baroque, etc. Et avec Ana Maria, on a commencé à jouer ensemble, à faire de la musique de chambre. Elle chantait, je jouais, elle jouait du clavecin aussi. Donc on essayait de faire comme on pouvait, parce qu'on n'avait pas trop de formation. Pour l'instant, on avait quelques ateliers, des petites masterclass avec des gens qui venaient en Colombie. Et on a rapidement on a perçu que la musique ancienne, surtout la musique ancienne espagnole de la période baroque, avait beaucoup des choses qui ressemblaient avec des musiques traditionnelles d'Amérique latine qu'on avait écoutées depuis jeune. Donc, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très spécial, ça. Donc, il faut faire quelque chose avec ça, parce qu'on écoutait dans les versions ou dans les interprétations qu'on trouvait dans les disques, cette musique est très faite à la façon musique ancienne, disons courante, dans une recherche très très académique de la musique, et voilà. Mais on trouvait qu'il y avait plus à faire dans cette musique, parce qu'il y avait beaucoup de rapports avec la danse, avec des choses populaires qu'il fallait voir. Donc là, on a eu un contact très important avec des musiciens qui faisaient des musiques traditionnelles en Colombie, surtout de la musique des plaines de la Colombie et du Venezuela, la musique de los llanos, on appelle ça, musique llanera. Et en 2009, on a essayé de jouer cette musique ensemble. Donc, ils s'étaient habitués à une tradition orale, pas écrite, et nous étions plutôt dans l'écrit, dans l'académique, et on a essayé de faire dialoguer ça. Donc, et ces musiciens, ils écoutaient la musique, les danses baroques ou les tonos humanos, qui sont les chansons espagnoles du XVIIe siècle, et ils disaient, oh, ça ressemble à tel genre de musique llanera. Et pajarillo ou chipola, etc. Donc, à l'oral et à l'écoute, on dialoguait tout le temps et il commençait à porter tous les bagages qu'il avait dans cette musique et on a essayé de faire dialoguer ça. Tout d'abord, ça a été à l'oral, d'une façon très, très intuitive, parce qu'on n'était pas formé, on n'était pas... On n'avait pas fait de recherche pour l'instant, c'était juste ça. Et ça a très bien marché, parce qu'il y avait des choses très, très fortes qu'on pouvait écouter là-dedans. Donc c'est comme ça qu'est né le groupe, et ça a tombé au même année que j'ai parti pour la France pour faire mes études. Donc c'était après difficile à nous communiquer et à nous mettre ensemble, mais on essayait chaque année de faire des sessions de concerts, des choses comme ça, et le groupe a continué à marcher et à faire de la musique, même jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup, Juan, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. On se quitte avec Racara, petit extrait de votre album Mira Como Bailas, que vous avez enregistré en 2016 avec votre groupe Como Era en un Principio. Et pour nos chères auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle épopée sonore.